La coopération. Le plus dur dans l'après-réveil, c'est l'attente. Attendre que les autres ouvrent les yeux, toutes et tous les autres. Ce que j'attends en particulier, je me démène depuis une décade, c'est que l'on cesse de considérer les bébés comme des acteurs. Tu peux écouter mon plaidoyer sur le même podcast, Le silence de l'enclos. Le futur est à la coopération. La compétition, merci Darwin, on a essayé. Ça ne marche pas, on va droit dans le mur. Et si on essayait la coopération? J'ai souvenir d'un prêtre qui, lors d'une messe dominicale, a prêché la collaboration en faisant une démonstration symbolique à ses ouailles. Il tient une bougie allumée à la main. « Si une personne veut agrandir sa flamme, dit-il, qui représente son argent par exemple, et qu'elle dépense beaucoup d'énergie, l'officiant utilise de grands gestes, lève subitement les bras vers le haut, opère un arc de cercle et achève sa phrase. La flamme s'éteint. Il se retourne pour rallumer la bougie et prend un pot en verre. Si par contre la personne décide de protéger ce qu'elle a, il recouvre la flamme du pot, elle s'éteint aussi. Alors comment faire grandir la flamme? Il rallume la bougie dont il vient d'étouffer la mèche et en allume une seconde. En rapprochant deux, trois, quatre flammes les unes des autres, dit-il, en faisant la démonstration. La flamme des deux mèches rapprochées étant effectivement bien plus grande que la somme des deux flammes séparées. Dans mon désir de te convaincre que le futur de l'humanité est à la coopération, j'ai trouvé en Arte une alliée. Dans l'un de ses reportages, la chaîne à vocation européenne tente de répondre à la question « Peut-on parler d'intelligence collective ?» Comment une nuée d'oiseaux arrive-t-elle à changer de direction sans la moindre collision? Il y a un siècle, on pensait que c'était grâce à la télépathie. Aujourd'hui, on sait que le comportement des oiseaux résulte d'une réaction en chaîne. Au sein de la nuée, les informations circulent à une vitesse stupéfiante. Sont-elles fournies par un individu dominant? Non, il n'y a pas de chef. Tous les individus sont égaux. Dans une nuée, le groupe est supérieur à la somme des individualités. Un rapace a peu de chances de capturer un oiseau évoluant au sein d'une nuée. La vivacité de ses balais aériens déstabilise le prédateur. Le groupe offre une protection dans sa lutte pour la survie. C'est vrai dans les airs, c'est tout aussi vrai dans l'eau. Quand on regarde un banc de poissons, on dirait presque un fluide animé. On dirait qu'il est doté d'une intelligence propre. Le comportement collectif des réseaux naturels peut nous aider à établir des systèmes stables et robustes dans nos sociétés. On sait aujourd'hui comment la nature construit les collectifs. Ils sont simples mais très robustes, très efficaces. Depuis plusieurs années déjà, Internet grouille dessins antidémocratiques. Même si les animaux ne peuvent verbaliser, communiquer ou voter explicitement, leur utilisation en tant que collectif de simples interactions sociales les rend très efficaces dans la prise de décisions démocratiques. Des poissons ont en effet permis de démontrer comment fonctionne cette prise de décision démocratique, de même que l'importance des minorités dans ce processus. Certains poissons étaient entraînés pour aller vers une source de nourriture jaune, d'autres vers une bleue. Même en infériorité numérique, les poissons à cible jaune étaient dominants parce qu'ils avaient été entraînés plus longtemps et finissaient toujours par convaincre leurs congénères de venir avec eux. Même en ajoutant 5 ou 10 individus non entraînés, non informés. On pourrait s'attendre à ce que la minorité n'influence pas du tout la décision et que la majorité numérique l'emporte, inversant complètement le comportement minoritaire. Or non. Conclusion, les bonnes décisions sont basées sur la diversité et non sur la conformité. C'est scientifique et c'est prouvé. Les débordements de foule sont-ils donc évitables? Quand on regarde les foules d'humains, on pourrait penser a priori que non. D'ailleurs, les chercheurs se sont longtemps désintéressés des foules, convaincus de leur stupidité. C'était la conviction du statisticien britannique Frank Galton à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il s'est livré à une expérience. Il était convaincu qu'une foule est stupide, synonyme de bêtise collective. Il s'est rendu à une foire agricole et a demandé à la foule si elle était capable d'estimer le poids d'un bœuf. Galton recueille 788 estimations. Aucune n'est juste. Le statisticien est satisfait, mais pas pour longtemps. Il constate, sans pouvoir se l'expliquer à l'époque, qu'en prenant la valeur médiane de toutes ces estimations, on tombe sur le nombre 547, alors que le bœuf pesait 545 kilos. Des individus similaires agissent selon les mêmes règles simples et participent ainsi à l'émergence de meilleures décisions collectives. Des individus fondamentalement différents profitent également du groupe en coopérant. L'union fait la force malgré les différences. De quoi remettre en question l'opinion de Darwin, qui considérait l'évolution comme une compétition dans laquelle l'être le mieux adapté gagne ou plutôt survit. Cette vision est en train d'évoluer car il devient évident que les éléments coopératifs, en plus d'être la clé des systèmes naturels, ont aussi fait avancer les processus évolutifs. Les animaux et les plantes d'un écosystème sont fortement interconnectés. Le moindre changement affecte tout le monde. L'adaptation et la sélection opèrent principalement par la relation des espèces entre elles. Nous aussi sommes des êtres reliés aux autres. Alors pourquoi ne pas imaginer un monde où la compétition céderait la place à la coopération ? Depuis l'origine du monde, c'est la coopération qui a mené à la création. Comme en biologie, les cellules qui collaborent atteignent une taille plus grande. Tous les artistes, et dans ce vocable j'intègre les artisans, tous ceux qui créent quoi que ce soit, contribuent à cette coopération. Car la création, c'est de l'énergie positive. Toutes les voix, toutes les émotions se résument à la peur et à l'amour, à l'énergie négative et à l'énergie positive. On a perdu le lien avec tout, avec nous, le tout. C'est la perte du lien qui mène à la violence. Recréons du lien, pas uniquement virtuel. Le virtuel, c'est bien quand on ne peut franchir les distances autrement. Recréons le lien social, le tissu social. Reformons des communautés diversifiées, solidaires et unies. Car qui dit coopération, dit éradication des castes, suppression des classes, égalité entre tous les êtres vivants. Une nuit, j'ai fait un rêve. Mes filles et moi participions à l'initiative de ma cadette à un jeu permettant de gagner des centaines de milliers d'euros. On arrive dans une salle obscure, bondée d'ordinateurs. On s'installe à la place numérotée qui nous a été attribuée. Les initiés sont déjà en train de résoudre les énigmes, tandis que nous tentons encore de comprendre comment le jeu fonctionne. J'ai choisi le rôle à l'arrière-plan, manipuler des objets disposés sur une table censés nous servir d'indices. Nous avons 2 minutes 30 pour trouver la réponse. Une organisatrice vient à notre secours, me montre une farde qui contient des enveloppes et tout le matériel nécessaire pour résoudre chaque énigme. Je déploie le premier papier tandis qu'apparaît à l'écran plusieurs réponses possibles. Notre réponse, un lit. Chaque bonne réponse nous donne 5000 euros, mais la première mauvaise réponse d'une personne dans la salle arrête le jeu. D'un coup, alors que nous avions pris le rythme et avions réussi à encoder 8 bonnes réponses, la lumière s'allume dans la salle. Quelqu'un s'est trompé. Nous avons gagné 40 000 euros, tandis que les habitués qui n'ont pas perdu de temps ont atteint jusqu'à 300 000 euros. Je comprends la méprise. La dame n'était pas une organisatrice, mais une participante qui a sacrifié volontairement de son temps pour nous aider à gagner. parce que c'est dans son intérêt d'élever le niveau de richesse des autres. Je comprends ainsi pourquoi chacun et chacune a une vue directe sur l'écran des autres ordinateurs pour pouvoir copier leurs bonnes réponses. Toutes les informations existent. Tout est à portée de clic. Maintenant, il n'y a plus qu'un. C'est facile. Impossible et facile. Et j'espère vivre encore jusqu'au jour où le peuple humain du futur dira de nous « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Pour le futur de l'humanité, je rêve de cosmopolitisme, d'éradication de toute discrimination, quelle qu'elle soit. Et si on essayait l'intelligence, pas au sens de QI élevé, mais au sens global, n'importe quelle forme d'intelligence, émotionnelle comprise. L'intelligence, c'est la connaissance. Le racisme, comme toute discrimination, c'est l'ignorance. Nous sommes un tout, donc le racisme, la discrimination, c'est idiot. C'est comme si on décrétait la nécessité d'éradiquer tous les ongles. Toutes ces cellules qui composent les ongles sont les mauvaises, il faut les détruire, les arracher. Mais ils font partie de nous. Ils sont nous, les ongles, comme les cheveux, comme les larmes, comme les étoiles. Toute idée d'étalonnage entre les cellules est stupide. Nous sommes des milliards de cellules. À la louche, je n'ai jamais eu l'œil pour les proportions. Les Samaritains qui vivent à Naplouse, une ville de Cisjordanie, sont un exemple de cohabitation naturelle, pacifique. Ils forment un pont entre Palestiniens et Juifs. Ils vivent sur le mont Gérizim et ont pour voisins une colonie juive et de petits villages palestiniens. Les Samaritains, plus attachés aux traditions, donnent un prénom arabe à leurs enfants et gardent leur nom de famille juif. La principale entreprise samaritaine emploie d'ailleurs des Palestiniens, des Juifs et des Samaritains qui cohabitent pacifiquement. D'autres endroits du village favorisent le contact entre Palestiniens et Juifs. Ils souhaitent apporter une pierre concrète à l'édification d'un climat de paix dans la région. Musulmans, Samaritains, Juifs, Chrétiens, tout le monde vit en harmonie dans ce village qui pourrait servir de modèle. La seule règle qui prévaut est le respect. À l'épicerie du village, soldats israéliens, citoyens palestiniens, colons juifs et samaritains se côtoient dans le calme et la tolérance. Un autre exemple. Une école forme les bédouins d'Israël et les prépare à l'université pour renverser les clichés. Habituellement, le mot bédouin est associé d'emblée aux armes, à la drogue, aux crimes, aux problèmes. Ces jeunes veulent briser ce cliché. L'équipe des Étoiles du Désert, composée essentiellement d'enseignants juifs, ambitionne de transmettre aux jeunes bédouins les codes de la société israélienne. Chaque semaine, les Étoiles du Désert sillonnent le Negev pour mieux cerner le malaise de leur communauté, comme un village de 15 000 personnes non reconnues, qui n'ont aucun droit, même pas celui de construire. Le tiers des 300 000 bédouins d'Israël vit dans des villages de tôle. Ces jeunes essaient d'améliorer la cohabitation entre Arabes et Juifs en Israël. Les filles ont aussi leur école, les Étoiles du Désert, car la tradition bédouine accepte mal la mixité. Deux preuves que nous, tous, souhaitons vivre d'énergie positive, dans l'harmonie, la paix, l'amour. Nous devrions faire marche arrière, retrouver notre humanité, retourner aux professionnels, aux artisans, croire aux journalistes d'investigation plutôt qu'aux fake news, croire les médias indépendants plutôt que ceux gouvernés par une poignée de familles richissimes, prendre des taxis, même si j'ai conscience que les alternatives permettent à des sans-papiers de travailler, mais dans quelles conditions, loger dans les enseignes officielles, retrouver notre libre arbitre, notre faculté de penser, retourner au groupe de réflexion citoyenne, sortir des réalités virtuelles, revenir dans la réalité. Ou pas. Je souhaitais planter une graine d'espérance dans ton cœur. Je m'étais donné pour mission de passer le flambeau. Voilà qui est fait. Je peux mourir en paix. J'ai passé le relais. Belle vie à toi. Et passe le message à ton voisin, n'oublie pas.
Jour après jour, je ressens la haine qui traîne et qui chasse. De mes pensées d'âne qui s'installe tour à tour. Mais tu crois que c'est un parterre de roses que la vie s'offre à toi. Personne ne t'a dit que les roses ça pouvait piquer au même endroit. Il y a les hommes et leur rengaine qui ne voient rien et qui sont sourds, car au fond de leurs pensées obscènes, l'indignation. C'est un parterre de roses et que la vie s'offre à toi. Personne ne t'a dit que les roses ça pouvait piquer au même endroit. Mais pourtant c'est tellement simple. Toi, personne ne t'a dit que les roses ça pouvait piquer au même endroit. Alors aussi, à force de tirer sur tes chaînes, n'oublie surtout jamais pas de penser à toi, car le superficiel que ne t'offrira jamais, non jamais la joie. Si tu crois que c'est un parterre de roses et que la vie s'offre à toi, personne ne t'a dit que les roses ça pouvait piquer au même endroit. Non, toi tu crois que c'est un parterre de roses et que la vie s'offre à toi. Personne ne t'a dit que les roses ça pouvait piquer au même endroit. Pourtant il y a toujours le jour au bout du tunnel.